Tu vois.
Édition 2020.
Documentaire. L'humanité.
Festival. Rencontre.
Auteur.
Suède.
Projection.
Réalisateur.
Jury.
Édition 2020.
Microphone.
Festival. Projection.
Production audiovisuelle.
On va maintenant aborder des questions de production. Notre invité Olivier Vlodarzic d'Ego Productions, pardon Olivier de l'attente, accompagné de Karine Gourceau et Isabelle Godillon, enseignante de gestion de prod d'Angoulême, et de Ninon, Barbara et Tom, étudiant d'Angoulême également, et de Dominique Castinel, enseignant de son au BTS audiovisuel de Biarritz. Alors, qui veut commencer?
Alors, j'avais une question. Nous, déjà en tant qu'étudiants, donc première année, deuxième année, on avait une question par rapport à votre formation d'origine que vous avez fait, votre cursus en général pour arriver à être producteur.
Tout d'abord, j'ai été monteur, j'étais chef monteur pendant une bonne dizaine d'années. Je suis ensuite passé à la réalisation où j'ai fait 12 ans de réalisation également. Après, j'ai fait à peu près une trentaine de documentaires pour toutes les chaînes de télévision. Et maintenant, depuis 7 ans, je suis producteur et je dirige le département documentaire de Ego Productions qui traite de la fiction d'un côté, et moi je suis le directeur de Ego Doc Productions. Voilà, donc ma formation, en fait, elle est sur le terrain et une vingtaine d'années d'expérience avant de passer à la production.
Et justement, vous avez réalisé plusieurs films, mm-hmm. dont Le Peuple des Ordures en 2011. Et désormais, vous vous occupez donc de la production de documentaires, comme vous l'avez dit. Mm-hmm. Donc c'est un grand changement. Qu'est-ce qui vous avait fait décider à sauter le pas entre ce changement finalement?
Bah, ça s'est fait doucement en fait, parce que j'ai eu envie de passer à la réalisation quand j'étais en montage, parce que je me suis dit au bout de 10 ans de raconter les histoires des autres, j'avais envie de raconter les miennes. Petit à petit, en fait, j'ai noué des liens avec les chaînes de télévision. Et j'ai fait pendant 2-3 ans, je produisais mes films en fait. Et puis après, j'ai eu la responsabilité d'un département dans une autre production où je continue à réaliser. Et il y a 7 ans, j'ai pris la décision complètement de passer à la production parce que j'avais envie de passer en fait mon expérience et transmettre mon expérience à des jeunes auteurs, mais aussi à des personnes qui avaient envie de raconter des histoires. Et vu mon passé de réalisateur et de monteur, j'ai quelque chose à offrir au niveau artistique, parce que c'est vrai qu'on parle de producteur et on pense tout de suite à l'argent, on pense tout de suite évidemment que c'est le nerf de la guerre. Mais le travail du producteur, c'est d'abord de faire raconter des histoires et d'être le garant de ce que l'auteur nous propose et ce que nous on propose aux chaînes de télévision.
Je ne crois pas que ce soit un grand pas. Contrairement à... Pour moi, il y a une suite absolument cohérente du montage à la réalisation, c'est-à-dire à l'élaboration, à la construction même du film et de la réalisation à la production, qui va venir se reboucler avec le montage, puisqu'il était déjà d'abord question de production de sens, et que tout ça est question de bâtir les choses de manière logique. Ce qui permet peut-être de secondariser la question financière, qui est évidemment le nerf de la guerre, mais qui est quand même de donner du sens. C'est ce qui fait la grande différence entre les producteurs aujourd'hui, d'ailleurs.
Bien sûr.
Et en général, on a plutôt confiance en ceux qui sont passés par la réalisation, et encore plus par ceux qui sont passés par le montage avant. Petite remarque.
Et justement, pour vos histoires, du coup... Mm-hmm. Quels sont vos diffuseurs de vos documentaires?
Ben tous, en fait. Toutes les chaînes, hormis pour l'instant les plateformes, les nouvelles plateformes, les SVAD, donc Netflix et Amazon, hormis cela, on travaille pour toutes les chaînes, hormis M6, voilà, on va dire. et quelques téléfilms reportages, mais le gros de nos collaborations, c'est avec Arte et France Télévisions, parce que c'est quand même eux qui portent le plus aujourd'hui la création documentaire. Un peu avec le groupe Canal+, sur Planète+, et France 5, France 5, France 2, qui sont les grandes chaînes du documentaire. En tout cas, dans ce que moi j'ai envie de traiter comme sujet, parce que ce sont essentiellement des sujets de société, d'histoire et d'environnement. Voilà, c'est les grands thèmes que j'ai envie de traiter.
Et puisqu'on parle des diffuseurs, du coup, on peut peut-être se poser la question des financeurs aussi. Qui est-ce qui finance vos projets jusqu'ici ?
Bah, tout d'abord, pour avoir toute la chaîne de financement, il faut convaincre un diffuseur. Donc en premier chef, les chaînes de télévision. Dans un deuxième temps, on a la chance, et c'est une exception culturelle française, c'est d'avoir un accompagnement du CNC, qui accompagne des productions de cinéma, mais également des productions audiovisuelles. Donc, il y a plusieurs, on va dire, accompagnements. Il y a un accompagnement automatique quand on fait régulièrement des films pour les chaînes. On a un compte sur lequel on se base pour avoir un complément de financement par le CNC. Et ensuite, on va contacter les régions, les conseils régionaux qui ont des antennes pour accompagner des documentaires qui traitent du lieu ou de la région, ou alors ce sont un accompagnement de gens qui sont sur le territoire, comme ici en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est pour aider un peu l'économie, l'écosystème du documentaire dans la région. Et de temps en temps, on arrive à convaincre des fondations qui sont en cohérence avec le sujet traité. Ça peut être, j'ai produit quelques documentaires sur le handicap et j'ai été contacter des fondations qui accompagnent ce genre de films. J'ai fait un autre documentaire sur les invalides à Paris. J'ai été contacté les gueules cassées. Enfin voilà, c'est en fonction du thème, on peut aller chercher des financements différents. Mais le cœur et le déclenchement, c'est évidemment la chaîne de télévision.
Vous avez énoncé le CNC aussi, on pourrait se poser la question par rapport à la nouvelle loi audiovisuelle qui rentre en vigueur, sur quel front le CNC risque de changer ?
Alors, c'est vrai que le CNC, il faut effectivement séparer la loi audiovisuelle qui est en train d'être mise en place et qui est en train de se créer, donc qui est en train d'essayer de protéger un peu les productions françaises avec l'arrivée de Netflix, d'Amazon et compagnie, parce que c'est vrai qu'il faut préserver cette exception culturelle-là. Et donc, il y a des engagements de la part de ces plateformes pour investir un minimum dans la nouvelle loi audiovisuelle, pour investir un minimum de 25% de leur chiffre d'affaires, pour que leur dividende soit un peu partagé avec les gens avec qui ils traitent
qui vient,
sur place.
On en traitait tout à l'heure d'être remise en cause par notre président ce matin.
Oui, bah là, c'est de toute façon ça va forcément être dans les mois qui arrivent, c'est en pourparlers, donc forcément il y a des dissensions. Évidemment que les GAFA vont pas se laisser faire, évidemment que le gouvernement va faire en sorte que cette loi soit appliquée. Donc ça, c'est concernant la loi audiovisuelle. Et concernant le CNC, c'est vrai que il y a eu deux réformes fortes ces 10 dernières années pour protéger un peu la création originale des documentaires. Il y a une dizaine d'années, aussi bien des reportages qui étaient sur la TNT, que j'appelle grossièrement les reportages un peu caméra teckel qui suivent le personnage sans avoir de point de vue et vraiment, et sur les policiers, je n'ai pas de jugement là-dessus, c'est juste qu'il n'y a pas de regard d'auteur, il n'y a pas de création originale sur ces thèmes-là. Et avec cette nouvelle loi du CNC, enfin avec la mise en place de cette première réforme, ça a un peu endigué toute cette partie de reportage. Et la deuxième loi fait que, en fait, c'est de plus en plus dur d'obtenir le CNC. Et de plus en plus, comme on est beaucoup de producteurs, comme il y a beaucoup de productions, forcément, ils sont obligés de mettre des barrières et des bonus pour pouvoir obtenir un certain chiffre en fonction de la durée du documentaire et du montant qui est affecté au budget de ce documentaire.
Justement, on va se poser peut-être la question de le plan de financement initial et les fonds que vous récoltez à terme. À quel point ça peut changer sur un film documentaire ? Combien ça peut varier ?
Ça peut varier de 1 pour 10, en gros. C'est-à-dire que quand on fait un film, un documentaire pour le réseau régional de France 3, par exemple, et heureusement qu'ils existent, parce qu'il y a quand même 250 documentaires par an produits par le réseau régional. Mais l'apport de cette chaîne est vraiment minime, donc de 10 000 euros à 100 000 euros, quoi. En gros, c'est un peu l'apport peut être à peu près dans ce genre-là, et tout en découle, c'est-à-dire que moins on a d'argent de la chaîne, moins on peut avoir de financement derrière, donc ça, c'est en escalier, quoi. Donc c'est une possibilité malgré tout de fabriquer des documentaires et des histoires un peu plus avec un regard d'auteur, parce que c'est un peu moins formaté, on va dire, sur ces cases là mais ça reste quand même très difficile à produire.
Et je voudrais essayer d'inverser le rapport, profiter de la présence d'Olivier pour vous demander à tous les trois comment vous envisagez votre parcours professionnel, puisque vous êtes en gestion de prod. Est-ce que, du coup, j'imagine, la question de la production vous intéresse ? Comment vous vous projetez ? Création de maison de production, travailler avec des boîtes existantes, travailler à plusieurs ? Comment vous imaginez votre...
Peut-être, sur un plan purement personnel. Mm-hmm. Je pense que l'un des intérêts qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est d'avoir la main mise, puisqu'on est rarement né producteur délégué, dans le sens où on n'est pas tous rentiers arrivant avec de quoi produire un film. Donc je pense que quand on veut commencer là-dedans, c'est l'un des milieux qui est le plus intéressant au fur et à mesure qu'on vieillit, puisqu'on a de moins en moins l'envie de courir partout et d'effectuer les tâches d'un producteur exécutif, peut-être. Ça reste de commencer par la production en industrie, donc je pense par là, par exemple, les boîtes de location, qui ont un pouvoir de plus en plus intéressant, puisque aujourd'hui, vu l'évolution constante des moyens technologiques, on a besoin constamment d'être mis à jour, etc. Et ça permet de garder une constante connaissance des techniques qui arrivent. Je pense notamment aux nouvelles caméras qui arrivent et qui vont permettre de faire un focus en post-production. C'est juste une mise au point, etc. On compose des images en 3D qui sont déjà produites par la caméra elle-même. On parle d'objectifs faits avec des liquides. Enfin, c'est complètement évolutif, et je pense qu'une boîte de location peut par exemple permettre d'être constamment à la page par rapport à tout ça, d'avoir accès à un matériel relativement nouveau et simplement d'être...
Mais là on parle plus de production.
C'est de la production en industrie dans un sens, après ça rejoint plus ou moins notre... Une boîte de production, je pense, peut venir d'une boîte de location par exemple. On parle d'une location, après évoluer dans la production, et puis éventuellement l'apogée reste un studio.
Et terriblement orienté, toute l'esthétique des films qui deviendrait... le prétexte de l'emploi de la nouvelle caméra à cristaux liquides, de netteté liquide, de toucher netteté liquide, extra liquide.
Ça dépend, on aura toujours.
Non, mais bien sûr. Je te taquine.
Je vous en prie. Mais non, je pense qu'au contraire, on aura toujours des gens qui. Ça dépend. Le cinéma, il est très libre par rapport à ça. T'as des personnes qui vont se concentrer sur l'organique énormément, qui vont aller vers des films plus. On vous en parlait tout à l'heure, Surf the Line, qui est un film qui est beaucoup plus organique, qui laisse moins place à des moyens techniques, mais plus à des. On s'assimile au personnage, peut-être, on est plus proche d'eux que de la manière dont ils filment leurs exploits. Et à côté, on aura des réalisateurs qui, eux, sont. Qui naissent techniciens, peut-être, et deviennent réalisateurs par la suite. Je pense à vous, mais j'ai peut-être tort également, et qui, eux, vont peut-être aller vers des moyens techniques toujours plus pensés, etc., vont plus penser le cinéma de cette manière.
Mais l'important, quand même, dans les documentaires, c'est le sujet qu'on traite, bah, peu importe, ou en fiction. Après, les outils qui sont à notre disposition nous servent à raconter le propos, mais on a beau avoir la plus belle caméra cristaux liquides du monde, si le sujet au fond n'est pas ne veut pas dire quelque chose, n'a pas de sens, c'est ça qui m'anime, c'est on suive évidemment l'évolution technique, parce que il faut faire avec, et ça nous permet d'avoir des solutions qu'on n'avait pas forcément avant, aussi bien au niveau de l'image qu'au niveau du son, parce que l'évolution, elle va à tous les niveaux, et au niveau de la post-production aussi, parce que c'est ce qu'on arrive à faire. Je me souviens, quand j'étais jeune monteur, je travaillais sur des... Ça va faire un peu dinosaure, mais je travaillais sur des bandes. Et de passer au virtuel, ça, au niveau artistique, ça a été une révolution. Ça a été quelque chose qui nous a donné plus de possibilités de tenter des choses. Et c'est tout ça au service du film et au service de l'artistique. Et c'est vrai que... c'est évidemment que c'est important de suivre l'évolution de la technique et de la technologie, mais c'est toujours aussi bien pour le cinéma que pour le documentaire, au service d'un propos.
Et est-ce que vous pensez que cette évolution, à ce moment-là, elle peut permettre d'avoir des propos différents au fur et à mesure de l'évolution de la technique, peut-être ?
Ça permet d'avoir peut-être des possibilités de tenter des choses. L'arrivée de la 3D nous a fait énormément réfléchir sur les possibilités d'expliquer des événements, de contextualiser beaucoup plus, et toujours dans le désir de passer l'information et de la vulgariser au mieux pour que le téléspectateur ou le spectateur le comprenne. Donc la technologie est au service, toujours au service de mieux comprendre, d'avoir plus de capacités, d'avoir plus accès aussi aujourd'hui un poste d'étalonnage, on peut l'avoir sur son ordinateur. Il y a 15 ans, il fallait aller dans une structure où il fallait avoir un énorme matériel. Donc La réduction de cette possibilité d'avoir sur un logiciel la capacité d'une énorme machine d'étalonnage, ça aussi, ça permet d'avoir plus de temps. Au lieu d'avoir 8 heures de d'étalonnage, on peut en avoir 2 jours, on peut avoir 3 jours. Donc tout ça pour pousser et pour être le plus proche de ce que l'auteur avait envie initialement, de faire.
Une dernière question, Dominique.
Oui, c'est juste par rapport à votre parcours et votre vision de l'avenir de ce métier, quel conseil vous donneriez que ce soit aux monteurs, aux réalisateurs ou aux producteurs?
D'avoir la foi, d'être passionné, mais vous avez l'air de l'être, donc toujours avoir, si vous avez un objectif, de garder cet objectif-là, parce que vous allez tout au long de votre carrière être attiré par à droite, à gauche, par des choses, des sirènes qui vont faire que vous allez avoir envie d'aller à droite, à gauche, mais de tenir votre objectif. Et c'est ce que je dis souvent aux réalisateurs ou aux auteurs avec qui je travaille, c'est de garder le cap. C'est toujours, moi, c'est ce que je me disais quand je réalisais. Le plus difficile, c'est d'essayer d'être exactement de réaliser exactement ce que j'avais en tête. Et les circonstances, et du tournage, et du montage, et des personnages qu'on rencontre, font que c'est toujours difficile. Et ça, de l'adapter à sa carrière, je pense que c'est le conseil que je vous donnerai.
Merci beaucoup.
Moi, j'avais une question un peu différente par rapport à FIPADOC, c'est pas du tout... puisqu'on est au cœur de l'événement. Je voulais vous poser la question pour vous en tant que professionnel. Quel est l'apport de FIPADOC, et est-ce que vous avez eu l'occasion de signer des contrats ou juste peut-être aborder des sujets de futurs peut-être documentaires?
On signe pas de contrat vraiment. Ici, on entretient les relations avec les professionnels des chaînes. C'est un moment particulier, les festivals, et le FIPADOC notamment, parce que ça nous permet de voir ce que font les autres, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, de pouvoir échanger avec des auteurs, avec des réalisateurs, avec d'autres producteurs, parce que de se sentir un peu dans une mouvance et d'être dans un collectif, d'avoir envie de faire les mêmes choses, ben, ça fait aussi, ça renforce la foi et l'envie de continuer. Et puis de voir des beaux films, c'est sûr que c'est un peu l'objet premier. De signer des contrats en tant que tel, non, mais de sentir aussi un peu quelles sont les tendances, les envies de chacun, ça c'est très important.
Merci.
Merci beaucoup Olivier, merci à vous. Et on va maintenant passer au micro-couloir qui va terminer notre émission de radio de ce jeudi. Nous sommes jeudi, oui je suis perdu, nous sommes jeudi.